la piraterie, bienvenue sur Radio Pirate, la radio qui pirate vos ondes à 21h. Pauline au micro pour animer une superbe émission sur les séries télé et les luttes sociales. Ce soir, nous parlerons de personnages, de narration, de luttes et de comment pirater des séries en pagaille sur Mega Upload. J'ai la chance d'être accompagnée ce soir par trois des plus fins pirates de la piraterie. Monsieur B, est-ce que tu es là ?
Je suis là, Pauline.
Super. Bonsoir.
Bonsoir.
Maxime, es-tu là ?
Bonsoir, je suis là.
Super. Et Agathe, es-tu là ?
Oui, salut la zone.
Avant de commencer cette émission, une petite pause musicale. Avec l'orchestre de Nuit Debout qui joue à la place de la République. Et je tenais à dédicacer cette chanson à Béa, une pirate bordelaise qui nous a quittés hier après des années à voguer auprès des migrants et des migrantes et qui remarquait toutes les personnes qui croisaient par son grand cœur. Cette chanson lui est dédicacée. Sur Radio Pirate, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Ce soir, nous parlerons séries télé et lutte sociale, c'est-à-dire mon paradis. Comme un pirate n'est jamais seul, je suis accompagnée par trois acolytes, Monsieur B, Maxime et Agathe. Quand nous avons commencé à construire cette émission sur les luttes sociales, nous étions un peu entre deux eaux. Souvent, la question abordée quand on parle des luttes sociales, la question politique dans les séries télé, c'est surtout la question de la représentativité qui est posée, et la représentativité en particulier des groupes sociaux minorisés, c'est-à-dire des femmes, des personnes LGBTQI, les personnes racisées, etc. Bien que cette question soit abordée, elle ne sera pas notamment au cœur de la discussion d'aujourd'hui, où on a voulu vraiment poser la question des luttes sociales et de leur engagement. Par ailleurs, il nous a semblé extrêmement importante et important à tous les quatre de vous présenter certaines références d'articles et de journaux qui vous permettent de poser cette question de la représentativité dans les séries télé. Le premier article que vous pouvez retrouver sur Twitter dès ce soir est un article de Jade Domingos dans la revue Deuxième Page, qui s'appelle « Lesbienne dans les séries télé, à quand une meilleure représentation ?» que je vous conseille fortement. La deuxième référence qu'on vous propose ce soir est le livre d'Iris Bray, qui s'appelle « Le regard féminin, une révolution à l'écran », qui questionne la représentation assez fine des femmes et des féminismes dans les télé. Et enfin, un troisième article de Maxime Delcourt, qui est publié dans Slate, « Faut-il se fier à la représentation des minorités dans les séries américaines ?» qui pose notamment la question des représentations des personnes racisées dans les séries télé. Nous voulions commencer par noter l'aspect politique, que ce soit sur qui est à l'écran, quelle histoire, comment on les raconte, qui produit chacune des séries télé, et comment, en fait, chaque œuvre artistique, de la série télé au film, en passant par la peinture, est une œuvre politique. Et c'est exactement ce qu'on va aborder ce soir. Par ailleurs, pour les plus aficionados d'entre nous, on va essayer de ne pas spoiler. Donc, même si on va parler des œuvres, il n'y aura pas trop de spoil, on va essayer de s'y tenir. Et maintenant, le jingle.
Radio.
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 Pirate !
Alors, ce soir, notre propos portera sur la représentation et les narrations autour des luttes sociales. Et donc, pour commencer, nous allons aborder la représentation des luttes écologistes, avec Maxime notamment. Donc, les séries télé, comme toutes les œuvres artistiques, étant la traduction des enjeux et des angoisses et des névroses du temps présent, la représentation de l'urgence climatique est partout dans l'ensemble des séries télé et notamment dans les séries d'anticipation ou dans les dystopies. Et c'est un peu de ça que tu voulais nous parler, Maxime, ce soir. Je te laisse la parole.
C'est ça. Alors, quand on a commencé à chercher un peu d'informations sur les séries qui parlaient de lutte écologique, je suis parti un peu faire le fossoyeur. Et je me suis dit que il y a une vieille série animée pour enfants, et vu qu'on n'allait pas trop en parler aujourd'hui à part à cette occasion, qui aborde bien le thème et qu'on a un peu oublié, même si elle était un peu traumatisante pour beaucoup d'entre nous, qui était Les Animaux du Bois de Katsu. Alors déjà, j'ai été un peu surpris. Je pensais que c'était une série française, mais en fait, c'est une série germano-anglo-hispano-française, produite pour la BBC en 92 et diffusée sur France 2 et France 3 en 94, basée sur les livres pour enfants de Colin Dan. Et donc, pour ceux qui n'ont jamais vu, le synopsis, c'est que les animaux du bois de Katsu se retrouvent contraints de quitter le bois à cause des constructions humaines et des bulldozers qui détruisent leur habitat naturel, et que la situation devient critique lorsque la mare, qui était le principal point d'eau, est comblée par les travaux. Je vous assure, j'ai pas mis tout ça de tête. Je me suis refait l'épisode 1 aujourd'hui parce que c'était un peu loin. Et en fait, c'est très intéressant parce que pour une série pour enfants, ça parle de préservation d'écosystèmes et ça donne le point de vue des victimes immédiates de l'urbanisation, à savoir les animaux. Et ça permet de ce point de vue d'observer une critique globale de l'intervention humaine. Donc ça va parler d'urbanisation, de la chasse, de la capture à des fins domestiques. Par exemple, dans l'épisode 1, donc, on ouvre sur le crapaud qui s'échappe d'un bocal dans lequel il avait été capturé pour être mis chez des gens, qui échappe de peu à la mort en passant vers des bulldozers et qui rentre et apprend que la mare a été asséchée. Donc les animaux ensuite vont décider de partir pour une grande quête d'un endroit où ils pourraient vivre très bien. C'est une série un peu particulière, les thèmes sont assez crus et les dessins assez particuliers pour les enfants. Il y a beaucoup d'épisodes un peu dur, la mort est souvent mentionnée, voire même parfois montrée, et les dessins sont très réalistes, on est loin des animaux humanoïdes avec des grands yeux qu'on va retrouver chez Disney. Et voilà, c'est une série vraiment originale pour l'époque, et même pour l'époque actuelle, qui a été à mon avis précurseur sur le thème, et qui change des séries un peu post-apocalyptiques pour ados qu'on a maintenant, The 100, 3%, The Rain, etc., qu'on va trouver sur Netflix, dans lesquels la destruction de la planète et les enjeux climatiques sont toujours l'œuvre d'un super méchant ou d'un super gouvernement qui, je trouve, déconnecte un peu les enjeux de la réalité. C'est-à-dire que c'est l'être humain hein, qui a un impact écologique direct. C'est pas toujours l'œuvre d'un super méchant, c'est l'œuvre de gouvernement, c'est l'œuvre du capitalisme, hein, globalement. Et donc, du coup, on est loin de ce message un peu vide de sens qu'on a dans les séries actuelles pour retrouver un truc vraiment un peu plus concret. Et je trouvais ça super intéressant.
Merci beaucoup, voilà. C'était super. Ça m'a replongé en enfance parce que je regardais cet animé quand j'étais petite et il m'a, oui, traumatisée totalement.
Oh, la même.
Et moi, de mon côté, en fait, je voulais vous présenter une série qui est un peu passée inaperçue, que j'ai regardée avec mon copain, qui s'appelle Nous la Vague. Donc, je vous épargnerai mon allemand très très mauvais, qui est sur Netflix et qui est sorti en novembre 2019. Et en fait, cette série, elle est inspirée de l'expérience autocratique qui a été menée en 1967 à l'université de Palo Alto. Et en fait, la plupart des personnes la connaissent à cause du film La Vague qui a été diffusé en 2008. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas du tout de quoi je parle, c'est une expérience qui, en gros, met en place une classe avec un professeur qui met en place des rituels pour montrer comment se met en place une autocratie. Et donc, en fait, la question de comment créer un système fasciste à travers aussi les humains et l'endoctrinement, etc. Et en fait, moi, j'étais vraiment partie en pensant que cette série, elle est traitée de ça. Elle traite de ça, mais en fait, elle traite surtout d'un groupe d'ados. Alors, évidemment, hein, on a l'ado un peu dark, qui tombe amoureux de la fille, qui est bonne élève, etc. Donc, on retrouve exactement les mêmes stéréotypes de la série pour ados que moi, j'adore par ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça parle d'un engagement de groupe politique. Et en fait, ce groupe-là d'amis devient en fait de plus en plus un groupe qui fait des actions politiques. Et notamment, il reprend les codes du mouvement intermondialiste et du mouvement non-violent, avec beaucoup d'actions spectaculaires, filmées, liées aux réseaux sociaux. Moi, ça me fait énormément penser aux actions de Extinction Rébellion, mais aussi de groupes allemands écologiques qui déjà utilisent depuis déjà une vingtaine d'années ce type d'action. Et en fait, dans la série, à peu près à tous les épisodes, on voit une action mise en place où la place de l'écologie et du nationalisme est au cœur, en fait, des ennemis, entre guillemets, de ce groupe d'ados. Et je trouvais ça intéressant parce que pour moi, c'est la première série que j'ai vue qui vraiment traitait de la question de l'écologie du point de vue de l'engagement écologiste de jeunes et amène, en fait, le récit vers la question, notamment, de la question de la société du spectacle, la représentation de nos mouvements, etc. Ce qui est, en fait, extrêmement intéressant pour nous, vu qu'on monte un projet qui s'appelle Radio Pirate et qu'on est aussi au sein même de cette questionnement. Donc, en fait, nous, l'idée de cette soirée, bonjour tout le monde, déjà, vous êtes extrêmement nombreux et ça nous fait extrêmement plaisir que vous soyez là. On va essayer de faire un peu une liste de séries qu'on a beaucoup aimées. L'idée, c'est de vous occuper la semaine prochaine, à minima, potentiellement les deux prochaines semaines, et on refera une série sur les séries télé, donc un épisode sur les séries télé, peut-être dans 2-3 semaines, pour vous redonner d'autres références et potentiellement aller plus en profondeur sur certains questionnements qu'on a abordés aujourd'hui. Donc, voyez ça un peu comme une introduction générale. C'est pour ça qu'on est 4 aujourd'hui. La deuxième bataille qu'on a voulu montrer à l'écran, c'est la question des luttes féministes et leur représentation. Donc, on fait ça en binôme avec Agathe. Est-ce que tu es toujours là, Agathe ?
Toujours là.
Super. On est hyper content de parler de ça parce que c'est extrêmement important aujourd'hui, notamment parce qu'on voit que depuis le mouvement MeToo, en particulier, mais même plus globalement, le mouvement féministe qui s'est radicalisé les 20 dernières années, ça a poussé en fait les showrunners, les réalisateurs et les scénaristes à donner une vraie place aux problématiques féministes et aux femmes en général. Et moi, je pense aux séries comme Unbelievable, Mrs. America ou encore The Marvelous Mrs. Maisel. Mais en fait, en réalité, malgré cette façade-là, tout ça, c'est pas vraiment gagné, quoi. Et moi, je vais vous donner deux chiffres qui m'ont semblé extrêmement importants. C'est que en 2016-2017, 68% des séries US comptaient plus de personnages masculins que féminins, encore aujourd'hui. Ce qui est absolument énorme. Mais aussi, il y a eu une énorme étude à l'université de San Diego qui a pris un panel de 1000 séries télé et qui les a analysées finement. Et en 2017, ils ont montré que les personnages féminins sont plus jeunes que leur homologue masculin, ont plus tendance que les hommes à être définis par leur statut matrimonial, et qui sont donc plus susceptibles d'être, sont moins susceptibles d'être dans une position de travail ou en train de travailler. Ce qui fait qu'on reproduit en fait les normes de genre et donc on diffuse de fait les normes de genre encore très fortement dans les séries télé. Par ailleurs, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il y a eu des séries qui ont changé fondamentalement la représentation de plein de questionnements. Et je sais que Agathe en parlera beaucoup. Moi, je voulais en parler de trois qui me semblent importants. La question de la représentation de l'avortement dans Sex Education, qui est quand même une représentation très visible et très réaliste de la question de l'avortement. L'art narratif autour de la question des violences faites aux femmes, qu'on va retrouver dans Unbelievable ou I May Destroy You. Pardon, je le prononce extrêmement mal. Et le troisième, autour de la question de la transgendinité des femmes trans dans Orange is the New Black. Je sais que tu voulais notamment aborder cette question, Agathe. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça?
Ouais, alors moi j'ai choisi une série pour discuter des luttes féministes qui est assez joyeuse et douce. Je vais vous expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que tu parlais de l'avortement parce que dans la série dont je vais vous parler, il y a un épisode qui concerne un avortement et c'est un peu pour moi le déclic féministe de la série. Donc cette série, c'est Glow. Ça se passe dans les années 80 aux USA. Du coup, l'esthétique, c'est beaucoup de néons lumineux et des looks flashy à base de juste au corps, de leggings et de costumes avec des épaulettes. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup. Et on y suit Ruth, qui est une jeune aspirante comédienne et qui se retrouve avec d'autres femmes à participer au lancement d'une émission de catch féminin. Et donc, on va suivre les aventures de ces quatre choses-là qui tissent entre elles des liens de plus en plus forts. Et ce que j'ai bien aimé, donc, c'est que les luttes féministes, elles sont incarnées par les personnages. Donc, ça ne donne pas un rendu lourd ou trop théorique. Et je dis ça parce que quand on suit ces questions, qu'on est concerné par elles, qu'on est militante ou militant, on a souvent besoin d'une petite bouffée d'air frais. Et pour moi, Glow, c'est vraiment ça. Ça reste un petit bonbon harlequin qui pétille. Parce que c'est vraiment doux et c'est vraiment feel good, mais ça reste politique et ça aborde plein de thématiques. Donc parmi elles, il y a le harcèlement sexuel, l'avortement, donc les différences salariales, mais aussi le racisme et notamment le racisme intracommunautaire et l'homophobie. Alors c'est pas toujours très très subtil, mais pour moi ça reste vraiment une série importante. Et ce que j'aime particulièrement, c'est la place qui est toujours accordée à celles qui parlent. Le résumé de cette série, pour moi, c'est vraiment la parole aux concernés et ça fait vachement de bien. Et l'émancipation de ces femmes-là, de ces quatre choses, elle transparaît aussi à travers comment c'est filmé. Et au début, par exemple, leurs corps, ils sont assez sexualisés. Mais plus on avance dans les épisodes et les saisons, et plus la caméra, elle devient elle-même féministe. Par exemple, dans les premiers épisodes, c'est un regard assez masculin qui se pose sur les fesses des quatre choses en body. Ça peut être même un peu dérangeant en tant que spectatrice. Mais dans la saison 3, qui est la dernière saison qui est sortie en 2019, ça devient un regard beaucoup plus sorore. Et je me souviens par exemple d'une scène qui m'a marquée. C'est une scène pendant un spectacle de catch. Et c'est un moment vraiment joyeux où toutes les catcheuses, elles s'éclatent et elles laissent retomber la pression. Elles gesticulent, elles entrent sur le ring en criant, etc. Et aussi en remuant des fesses, en exagérant, notamment pour se moquer des stéréotypes, mais aussi juste parce qu'en fait, elles s'amusent. Et on voit la scène du point de vue d'une des catcheuses qui regarde le spectacle depuis le public. Et en fait, on se marre en même temps qu'elle parce que c'est drôle et c'est super libre. C'est comme si on voyait nos copines en train de sauter sur un lit en s'amusant en soirée pyjama. Et un autre exemple aussi, c'est le fait qu'au début de Glow, on suit principalement Ruth et sa meilleure amie Debbie, qui sont deux femmes blanches. Mais progressivement, il n'y a plus vraiment de personnage principal et c'est l'ensemble des catcheuses qui sont au centre du film. Au début également, j'ai trouvé ça un peu caricatural, comme si les scénaristes, ils avaient pris un personnage pour une oppression en mode « Bon les gars, il nous faut une caution pour chaque communauté, c'est parti, on va faire un truc avec des catcheuses, on va en mettre 20 comme ça, ça va tout représenter. » Et donc c'était un peu caricatural, mais au fur et à mesure, la psychologie et les identités de chacune des catcheuses, elles sont vraiment creusées. Et ça permet qu'elles apparaissent dans toute leur singularité et leur complexité. Et c'est vraiment ça que j'ai adoré dans la saison 3, que j'ai regardée il n'y a pas longtemps, même si donc elle est sortie en 2019. On sent que c'est la plus aboutie. Et du coup, j'étais d'autant plus dégoûtée quand j'ai appris que Netflix, ils avaient profité du Covid pour non pas suspendre, mais carrément annuler le tournage de la quatrième et dernière saison. Et donc, les acteurs et les actrices, ils ont lancé un appel du pied à la plateforme en se disant prête et prêt à tourner à la place un long métrage. Mais bon, il n'y a encore rien de fait, ni rien de concret. Et en attendant, chers pirates, si vous savez où je peux prendre des cours de catch, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat parce que ça m'intéresse vraiment.
Super. Ben moi, en plus, cette série, je ne l'ai pas vue et ça m'a énormément envie de le regarder.
Parfait pour le dimanche soir.
Ben super. Mais bon, le dimanche soir... Bon, ok. Ben, je la note tout de suite alors. Ça sera ma prochaine série. Moi, sur cette question-là, je voulais aborder trois séries en parallèle sans aller obligatoirement dans le détail, parce que ça m'a semblé important en fait de poser la question de la solidarité entre femmes. Et je trouve que c'est des choses qui sont de plus en plus représentées et des choses qui avant étaient plutôt, on allait représenter des femmes qui s'aiment pas, des femmes qui sont ennemies, etc. Alors que là, on commence à créer en fait des représentations de femmes qui s'allient. Et pour moi, c'est la politique féministe, ça commence aussi par l'alliance des femmes entre elles. Mm. Et je trouve qu'il y a trois séries qui sont assez représentatives de ça. C'est The Handmaid's Tale, et ou appelée La Servante Écarlate en français, qui a été, à mon avis, une série qui a été bien comprise et mal comprise. Donc, pour ceux et celles de qui ne savent pas du tout de quoi je parle, c'est une série qui est sortie en 2017. Vous devez à peu près savoir ce que c'est. C'est la grande cape rouge qui va défier Trump il n'y a pas si longtemps. Et en fait, c'est une série sortie en 2017 sur Hulu. Compte aujourd'hui 3 saisons, une 4e saison va sortir bientôt. Et en fait, c'est une série qui a été à la fois extrêmement critiquée et en même temps présentée comme la série post-MeToo. Parce que c'est une série qui est tirée d'un livre de Margaret Atwood et qui raconte une dystopie où se met en place un régime totalitaire très sexiste et très raciste et où évidemment les femmes sont divisées en 3 castes, etc., etc. Donc je vous raconte pas toute l'histoire, regardez-la. Et en fait, la première saison a été totalement encensée et très vite, en fait, on a dit que la série s'est délitée. Et alors que moi, je trouve que la 3e saison est la saison la plus intéressante au final. Parce que dans cette saison, on commence à voir l'organisation des femmes entre elles et comment, en fait, il y a des solidarités de femmes qui se créent. Donc, je ne vais pas vous spoiler, donc j'irai pas plus que ça. Mais je trouve que cette saison a été extrêmement mal comprise. Et donc, je vous invite fortement, pour ceux et celles qui n'ont pas regardé la série ou qui se sont arrêtés à la fin de la 1ère ou la 2ème saison, à regarder cette saison d'un point de vue de l'organisation féministe, parce qu'elle dit énormément de choses sur comment les femmes se solidarisent et placent à l'action. La 2ème série que je trouve qui est très connue, et là pour le coup c'est plutôt pour la citer qu'autre chose, s'appelle Big Little Lies. C'est une série au casting de stars avec à l'affiche Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Meryl Streep, Shailene Woodley, que j'adore, qui est une activiste américaine d'ailleurs, Laura Dern et Zoe Kravitz. Donc c'est des femmes de la tranche supérieure de la classe moyenne américaine qui vivent dans les banlieues, etc., californiennes, tout le monde voit à peu près le décor. Et à un moment, il arrive quelque chose et elles doivent se solidariser. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce que là, on est vraiment sur le cas de la solidarité dans l'intime face aux violences faites aux femmes et comment des femmes qui sont dans des positions qui sont parfois même positionnées comme ennemies ou en concurrence, à un moment, se solidarisent face à la violence patriarcale. Et je trouve que cette série raconte extrêmement bien ces questions-là dans des milieux qui sont souvent pensés comme des milieux un peu en dehors des violences faites aux femmes, alors qu'en réalité, on sait très bien que les violences dans les espaces, enfin, plus on monte aussi dans les échelles sociales aussi, plus on voit des violences qui sont aussi cachées, et donc en fait, c'est parfois très important d'en parler. La 3ème série dont je voulais parler, s'appelle The Duce de David Simon. Donc David Simon, il est extrêmement connu pour The Wire en particulier. Moi, je le connais beaucoup pour Tremé, qui est ma série préférée de tous les temps. Et The Duce, c'est une série qui est d'HBO, qui est sortie il n'y a pas... La 3ème saison est sortie il n'y a pas longtemps. Et donc, il n'y a que 3 saisons. Et moi, je voulais surtout mettre la focale sur la 2ème saison. Donc, c'est une série, en fait, qui parle de la naissance de la pornographie dans le New York des années 70. C'est absolument incroyable. C'est extrêmement beau, c'est extrêmement bien. C'est politique, c'est extrêmement bien documenté, etc. Mais surtout, la 2ème saison parle de l'auto-organisation des travailleuses du sexe, qui est extrêmement mal connue et peu représentée à l'écran. Et je voulais souligner en fait le travail qui a été fait autour de cette question, parce que c'est très peu connu et c'est une histoire qui est souvent tue. Et The Duce a la finesse de le montrer du point de vue des femmes. Et donc, je vous recommande fortement cette visionnage. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Agathe?
Alors je vais pas mal te répéter ou te paraphraser, mais c'est vrai que pour moi l'enjeu féministe dans les séries, c'est vraiment l'aspect autogestionnaire féministe où on parle des femmes et de la solidarité entre femmes qui compte. Et maintenant, je trouve. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans Glow. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure des saisons, les personnages masculins, ils sont évacués au second plan. Et on voit vraiment comment est-ce que ça soit dans l'intime ou dans le professionnel, dans le personnel, on peut mettre des solidarités féminines, féministes en place et comment ça fait avancer les choses. Et c'est vraiment, vraiment chouette.
Merci beaucoup, Agathe. On te retrouve dans pas longtemps pour une autre partie. On va suivre sur une autre présentation qu'il a lue des luttes, celle des luttes antiracistes dans les séries télé. Et je suis avec Monsieur B. Monsieur B, est-ce que tu es là ?
Je suis toujours là.
Super. Il me semblait extrêmement important de présenter ces questions-là, notamment avec l'explosion des représentations des luttes antiracistes, notamment aux États-Unis, avec le développement depuis 2013 du mouvement Black Lives Matter, et plus récemment avec George Floyd. On vous renvoie avec énormément d'articles qui font des listes de séries à voir pour questionner ces choses-là. Nous, on a voulu mettre la focale sur des séries qui questionnent l'engagement antiraciste. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire de ça, Monsieur B?
Mais moi, en fait, j'aurais deux séries dont je pourrais vous parler. Donc, je pense que la première, c'est un peu la plus évidente pour ceux qui, et celles qui sont un peu renseignées sur le sujet. Donc, c'est Dear White People, une série créée par Justin Simien, qui est en fait une sorte de suite reboot au film du même nom, qui était avec Tessa Thompson et Tyler James Williams. Donc, c'était le héros de Tout le monde déteste Christ, pour ceux qui connaissent. Et donc, en fait, c'est une satire qui suit le quotidien de plusieurs étudiants et étudiantes noires à l'université de Winchester, donc qui est une université fictive. Et ça suit notamment Samantha White, qui anime un podcast qui s'appelle Dear White People et qui dénonce, en fait, à travers ce podcast, les injustices et les comportements racistes qu'elle voit sur le campus. Alors, contrairement au film, la série est vraiment plus une série d'ensemble. Hein. Samantha est toujours, on va dire, le point d'entrée, mais on suit tout le monde. Quand je disais d'ailleurs que c'était une sorte de suite reboot, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que c'est une suite du film. Mais en même temps, il y a pas mal d'acteurs et d'actrices qui changent. Donc au départ, ça fait un petit peu bizarre. Mais au final, le format sériel, justement, pour raconter ces problématiques-là, moi, je le trouve en tout cas plus adapté. Ça permet vraiment à Justin Simien d'aller plus loin dans ce qu'il veut montrer, etc. etc. Et puis surtout, de toute façon, les persos sont vraiment très attachants. Donc on se fait vite aux nouveaux acteurs et aux nouveaux acteurs, pardon, et aux nouvelles actrices. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que c'est vraiment une série qui se concentre sur l'expérience et la vie des personnes noires sur le campus. Voilà, ils sont les éléments centraux de l'histoire. Alors, il y a des personnages blancs aussi, mais il y en a pas beaucoup. Et ils occupent pas le devant de la scène. C'est vraiment, ça se concentre sur l'expérience et la vie des personnes noires. Et donc, résultat, c'est vraiment ce côté toujours politique. Je rejoins de ce qu'avait dit Agathe tout à l'heure, toujours dans la façon politique, dans ce qu'on montre, forcément. Et surtout la façon dont on le montre. Et en faisant ce choix, qui devrait pas être un choix radical, mais malheureusement encore aux États-Unis, ça l'est encore un petit peu, mais en faisant le choix vraiment de se concentrer, de s'adresser avant tout aux concernés, de montrer des concernés et d'avoir aussi des concernés derrière la caméra, ben, la série quand même pousse le curseur plus loin que certaines ne le font. D'ailleurs, rien que son existence, elle est déjà politique en soi, puisque quand on voit la campagne de boycott qu'avait lancé la Right contre, justement à cause du nom qui était censé être raciste, enfin bon bref, ridicule, mais résultat, le fait de faire ce choix radical de dire ben non, là ça c'est une série faite par des personnes noires, sur des personnes noires, pour des personnes noires, et qui en plus a un titre satirique, puisque ça reste une satire, ben ça crée pas mal de réactions. Je finirai par dire qu'il y a une super BO, et je passerai à la série suivante. Donc la série suivante, c'est Vida, donc qui est une série créée par Tania Saracho. J'espère que j'écorche pas son nom. En même temps, Justine, je l'ai peut-être écorché aussi. Et en fait, c'est une comédie-drama en fait sur deux sœurs mexicaines-américaines qui reviennent en fait dans la communauté latinx de LA. Donc les deux sœurs Emma et Lynn, et qui se retrouvent à revenir chez elles où elles ont grandi parce que leur mère décède en fait. Leur mère qui s'appelle Vida justement. Et en revenant, forcément, ça rouvre certaines blessures. Il se passe pas mal de choses. Leur vie est assez chamboulée et ça va être le début, on va dire, d'une espèce de projecteur sur cette communauté. Alors, moi, c'est une série vraiment que j'adore, donc les mots sont forts, mais je suis tombé amoureux quand j'ai maté la série, parce que je trouve que c'est une série qui fait quelque chose que, malheureusement, d'autres séries arrivent moins facilement à faire, mais elle arrive à présenter des persos qui débordent d'humanité. Ça crève l'écran, ça dégouline de partout. Je sais pas comment mettre une autre image, mais c'est vraiment, enfin, on s'y attache. Ils sont tellement humanisés, on s'y attache très, très, très vite. Et là, c'est le même principe en fait que Dear White People. Il y a des choix qui sont faits, qui sont entre guillemets, mais assez radicaux. Comme par exemple le fait d'inclure, forcément, comme les personnages principaux sont bilingues, ils parlent l'américain et le mexicain, enfin l'espagnol mexicain. Et bien en fait, il y a des moments où ils switchent de l'un à l'autre. Eh bien, c'est pas sous-titré. C'est pas sous-titré. Il faut, moi qui parle pas un mot espagnol, au départ, je comprenais pas quand ça parlait, puis on commence à choper deux, trois remarques, et ça, c'est plutôt cool. C'est, une fois de plus, c'est un choix. Pareil, le fait que la série passe souvent le Bechdel test, c'est super cool aussi. Le fait aussi que, par exemple, le personnage de Eddie, qui franchement, en termes de représentation des Butch, est vraiment, pour moi, une avancée, parce que elle est quand même un peu à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de montrer. On a tendance à enfermer les personnages Butch dans un peu toujours les mêmes rôles. Et là, c'est pas le cas, et ça, c'est cool. Alors, c'est vrai que là, on est censé parler un petit peu de lutte antiraciste, et moi, j'ai choisi cette série surtout parce qu'elle parle aussi de gentrification, et notamment aussi d'intergentrification, à travers le personnage de Marie. Quand je parle d'intergentrification, c'est parce que c'est des personnes même de la communauté qui entraînent la gentrification, en fait, du neighborhood. J'ai que le mot anglais qui me vient en tête. Et voilà, et ça
Je
suit
vois
la
ça.
communauté. Oui, merci. Et ça suit surtout la communauté queer, etc. Ça parle aussi de toxicité dans les milieux militants. Ça parle aussi d'immigration. Enfin, c'est vraiment. Puis c'est une série très drôle. C'est une série très drôle. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère l'avoir bien vendu. Mais en tout cas, je voulais vraiment parler de ces deux séries parce que pour moi, c'est pas des accidents. C'est ce qui se passe quand on a à la fois de la représentation devant la caméra et derrière la caméra. Ça permet de donner ce style de série qui peuvent faire certains choix qu'on n'a pas l'habitude de voir, de traiter des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et ça fait du bien. Voilà.
Bah merci
Juste,
beaucoup. Vas-y,
je me
vas-y.
permets une petite aparté. Il y a Guyouhou qui nous dit sur le stream une mini-série à ne pas louper avec 4 épisodes. C'est When They See Us, donc de leur regard sur un vrai fait divers qui s'est passé à Central Park il y a quelques années, qui nous la recommande et je tenais à vous la recommander aussi. C'est vraiment très bien.
Mais ça fait une très bonne transition. Merci Max, parce qu'en fait, moi, je vais parler d'une autre série qui avait fait aussi Ava DuVernay. Donc, c'est magnifique. Qui a aussi fait When They See Us. C'est une autre série qui est extrêmement peu connue et pour moi est un chef-d'œuvre qui s'appelle Queen Sugar. Je pense que personne ne l'a vue. C'est une série où Ava DuVernay est la productrice et la créatrice de la série et Oprah Winfrey est la productrice exécutive. Et la série passe sur la chaîne d'Oprah Winfrey. Donc autant vous dire que si vous voulez la regarder, nous vous suggérons fortement de pirater Internet. Donc après, vous en tirez comment dire, les conclusions qui s'imposent.
Je suis choqué.
Et c'est, j'imagine bien. Et la série pourquoi je voulais vous parler de Queen Sugar? Donc un peu pour vous parler. Donc déjà avec, c'est une série qui a pour une des têtes d'affiche Ruth Rutina, qui est absolument incroyable et qui est jouée déjà dans True Blood. Et surtout, ça parle en fait d'une famille rurale en Louisiane. Vous posez le décor, le père, donc le patriarche, décède et donc les trois enfants sont obligés trois enfants qui ont entre 30 et 40 ans sont obligés de revenir dans la ferme familiale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette ferme-là? Donc, ça pose la question de la ruralité, donc les personnes noires dans un état du Sud, dans la ruralité, la question de l'agriculture, la question des rapports de force territoriaux, la question de. Et c'est mais absolument incroyable, outre le fait que cette série est d'une beauté sans plus pareil. Mais pourquoi je vous parle de cette série? C'est surtout parce qu'en fait, très vite, cette série parle on va dire en seconde narration, parce que c'est quand même un soap et on parle beaucoup de la famille, etc. On parle beaucoup des violences policières et des luttes contre les violences policières dans le sud des États-Unis, et c'est porté de manière extrêmement fine. Et aussi, il porte une lutte qui est absolument essentielle dans les mouvements noirs américains, qui est la lutte anticarcérale, et notamment contre l'incarcération massive des personnes noires. Donc, pour connaître bien la Louisiane individuellement, c'est un État qui enferme les personnes noires et qui les met dans un néo-esclavagisme à travers l'enfermement carcéral. Donc, il y a vraiment un mouvement anticarcéral extrêmement fort en Louisiane. Et en fait, il est montré dans cette série télé, mais de manière non, enfin, comme un espèce de fil rouge de la série, donc la question à la fois de l'incarcération, mais aussi quand on sort de la prison, comment on fait pour retrouver du travail, etc. Et c'est absolument extrêmement bien fait et c'est extrêmement beau à regarder. Donc je pousse tout le monde à le voir. Et il y a eu une troisième saison qui est sortie il n'y a pas longtemps, Parce qu'avec le Covid, évidemment, ça a été décalé d'une année, la quatrième saison. Et la troisième saison pose aussi la question de comment faire attention à nous et à la communauté. Et je trouve que ça fait extrêmement écho avec le projet depuis Radio Pirate, qui est de faire une voix amie tous les soirs à 21h. Donc, on essaie de faire attention à notre camp social. Et en fait, la question de Queen Sugar, c'est comment, en fait, il y a des constructions communautaires, politiques et d'actions politiques qui sont possibles. Et donc, vraiment, regardez cette série télé, vous allez trouver ça incroyable. La deuxième série dont je voulais vous parler, qui est plus connue, c'est Friday Night Lights. Est-ce que je suis la seule à avoir regardé cette série pour ados incroyable?
J'ai pas
Je trouve tout
regardé.
le monde.
Ouais. J'ai pas
Oh
vu non
mon
plus.
Dieu, c'est tellement la honte. Je vous le dis, c'est la honte. Voilà. C'est une série qui est terminée et en cinq saisons qui a été diffusée entre 2008 et 2014. C'est une série qui prend place dans une toute petite ville du Texas, enfin fictive, qui s'appelle Dillon. Et en fait, on suit la vie d'un coach totalement incroyable entre Réa, qui est hyper sympa, un peu le père idéal et le mec qu'on déteste en même temps. Il porte toujours une casquette, qui s'appelle Eric Taylor, et sa femme absolument incroyable, qui s'appelle Tammy Taylor. Et en fait, ce sont des gens qui un peu lead l'équipe de football américain du lycée de la ville. Et donc, en fait, toute la vie de cette petite ville est dictée autour de cette équipe de football. Mais surtout, et c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que dans la saison 4, il y a une grève des joueurs noirs de l'équipe de football
Ah ouais.
américain après les propos racistes d'un des entraîneurs. Et c'est surtout que ça s'est passé. Alors, ce qui s'est passé cette année au niveau du basketball, etc., et toutes les grèves de joueurs, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'histoire du mouvement noir américain assez régulièrement, mais c'est peu montré à l'écran. Et c'est moi, c'est la seule fois que j'ai vu une grève de sportifs noirs américains représentée à l'écran. Et donc, je vous pousse à regarder cette série, et notamment pour la représentation de la question des rapports de classe et des rapports de race, qui, à travers un État du Sud, qu'est le Texas, et les questions de rapport de pouvoir, posent en fait, la question du racisme intrinsèque dans cet État du Sud et de manière générale. Voilà. Donc, j'espère que vous regarderez tous ces séries-là. On va enchaîner sur la question des luttes LGBT, et c'est Agathe et Monsieur B qui sont aux commandes. Et donc, il nous a semblé extrêmement important de parler de ces luttes-là, et notamment parce qu'elles sont de plus en plus présentes à l'écran, et quand des séries comme Pose, The Foster ou encore Looking de HBO, et surtout parce qu'en fait, elles posent la question de tous ces personnages LGBT, notamment les gays et lesbiennes, qui meurent très vite dans ce que les journalistes, les activistes appellent le bury the gays, c'est-à-dire qu'on sait très bien que très souvent, ces personnages meurent très, très, trop vite. Parce qu'en fait, on ne sait pas développer une narration et un arc narratif complet autour de ces personnages. Et en fait, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette question? Est-ce que tu veux commencer, Agathe?
Ouais, alors je vais rebondir sur ton introduction, Pauline, sur les représentations. Et je trouve que c'est vraiment important. Moi, je m'en suis rendu compte personnellement en découvrant The L Word à 24 ans. Et j'étais juste choquée devant cette série. Et je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que si j'avais vu The L Word 10 ans plus tôt, ça aurait vraiment changé ma vie. Du moins, j'aurais perdu un peu moins de temps. Et du coup, je suis toujours assez émue dans une série mainstream, plus globalement, de découvrir des personnages qui me ressemblent ou qui ressemblent à mes proches. Par exemple, j'avoue, j'avais jamais regardé Desperate Housewives vraiment, donc j'ai essayé de le commencer il n'y a pas longtemps. Et quand j'ai vu le personnage de Andrew, qui est le fils de Bree et qui est bisexuel, j'étais vraiment très émue. Et du coup, ce soir, je vais vous raconter comment je suis tombée de ma chaise devant The Grand Army. The Grand Army, c'est une série Netflix. Il y a une saison pour le moment. Et attention, je dois mettre un avertisseur hors de contenu parce qu'il y a des scènes de viol et de harcèlement et ça peut être assez, beaucoup, très violent. Et donc, dans cette série, l'homosexualité, la bisexualité, ils sont presque traités comme des non-sujets, tellement c'est normal et c'est OK et c'est banal. Et il y a notamment une scène où il y a un des personnages principaux qui est outé par un autre élève sur Internet. Donc, on fait un petit rappel, ne faites jamais ça. Et donc, sa sœur essaye de le rassurer et lui dit, non, mais t'as pas de quoi avoir peur pour le regard des autres élèves parce que dans l'école, il y a au moins une centaine d'élèves qui sont gays. Alors, évidemment, je ne dis pas que tout va bien, que c'est le monde des bisounours et ça n'empêche pas à ce personnage de subir de l'homophobie, notamment de sa propre famille. mais on voit aussi dans The Grand Army tous les messages de soutien et d'amour qu'il reçoit. Et ça, je trouve que c'est vraiment super important parce que les représentations LGBTQIA+, elles se sont vraiment multipliées dans les dernières années dans les séries, mais elles ont aussi évolué. Pendant longtemps, les personnages LGBTQIA+, c'était des persos qui étaient uniquement là pour le fait, à cause du fait qu'ils étaient LGBTQIA+, et c'était des personnages qui étaient harcelés, jetés hors de leur maison, qui étaient tabassés, etc. Et j'ai l'impression que ça a vraiment changé ces dernières années et qu'on est tous et toutes représentés dans toute notre complexité sur tous les aspects de notre vie. On meurt beaucoup moins vite, en gros, pour rebondir à ton introduction dans les séries. C'est vraiment chouette. Et je suis un peu jalouse de tous ces ados qui découvrent ces séries en grandissant. Ça m'avait fait un peu la même chose avec Big Mouth, qui est une série d'animation qui traite de sexualité et que je vous recommande aussi vivement. Voilà, c'est tout pour moi.
Ben merci beaucoup, c'était super. J'en parlerai aussi cette série après. Est-ce que Monsieur B, je sais que tu as des choses à nous raconter sur la question. Je t'en prie, c'est à ton tour.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, moi, je plussois tout ce que vient de dire Agathe. Alors, pas sur Grande Armée parce que je l'ai pas encore vu, même si je suis sûr que la série est très bien. Mais je la plussois sur tout ce qu'elle dit au niveau de la représentation, de son importance et surtout, c'est important qu'il y ait une variété. Et alors, moi, personnellement, la série que j'ai vue, j'ai pas forcément vu de série qui se concentrait exclusivement sur les LGBTQ. Mais je voudrais juste faire un petit aparté sur la représentation en elle-même, puisque c'est clairement une forme de lutte. On répète souvent à longueur de temps que la représentation est importante, et je pense que c'est assez clair pour tout le monde pourquoi, mais juste quelques petits rappels. J'avais vu une vidéo il n'y a pas longtemps justement sur ça qui disait, c'était intéressant, qui parlait de l'hypothèse du contact parasocial en fait. J'avais trouvé cette info sur la chaîne Innuendo Studio, pour ceux qui connaissent, qui expliquait en fait que la partie reptile de notre cerveau ne fait pas la distinction entre l'empathie pour un personnage fictionnel et l'empathie pour une personne réelle. On le fait, nous, on va dire qu'on voit bien que quand on regarde quelqu'un, il est à la télé, hein, c'est un personnage de fiction, ça c'est important, faire la distinction, mais en fait, la partie reptile de notre cerveau ne fait pas la distinction. Et en fait, je pense que vous voyez où je veux venir, c'est ça qui rend la représentation d'autant plus importante. Parce que pour moi, c'est son côté politique le plus fort, c'est que en normalisant la présence de personnes oppressées, là on parle de la communauté LGBTQ, et en normalisant aussi leurs droits, et en les normalisant dans toute leur complexité qu'ils ont, etc., ben c'est une forme de lutte. C'est une forme de lutte, et c'est pour ça que la représentation est aussi importante. Alors après, on peut aussi en parler de façon philosophique. Je pense qu'on sera tous d'accord autour de la table pour dire que, d'un point de vue philosophique, tout le monde a le droit d'être représenté dans la fiction. Ça devrait être OK pour tous et toutes.
Oui.
Je pense que là, j'aurai personne qui ne sera pas d'accord. Mais c'est aussi important si on en parle plus rarement, et c'est vrai que c'est moins important, mais c'est aussi important d'un point de vue créatif. Parce qu'au bout d'un moment, la fiction, ça fait longtemps qu'elle est là, et au bout d'un moment, on traite un peu toujours les mêmes choses. Et on dépeint toujours un peu les mêmes personnes et toujours les mêmes expériences. Et le fait de changer les points de vue, de changer les personnes dépeintes, et ça fait aussi avancer créativement parlant. Alors c'est sûr que c'est moins important que la partie politique de normaliser les personnes oppressées, mais c'est aussi c'est bien aussi de rappeler que ça c'est une bonne chose pour ce niveau-là. Donc je vois d'ailleurs une personne qui signale que l'empathie, il faut voir comment elle se construit, et elle a clairement pas le tort, parce que on parle de représentation, mais faut aussi parler de la qualité de la représentation. Je rejoins ce qui a été dit pour le Beurre Yogé Trope, qui fait beaucoup de mal, hein, à la représentation et même à l'audience LGBTQ qui reçoit des morts en pagaille, souvent pour des personnages secondaires, sans que rien ne soit développé. Je rajouterai aussi le queerbaiting, qui fait pas du bien aussi, cette espèce de jeu. De jeu en fait qui est de sous-entendre qu'il pourrait avoir une relation homosexuelle par exemple entre deux personnages, et en fait bah non, c'était juste pour amener des gens, et ça le fait pas, et ça c'est clair que c'est aussi des choses contre lesquelles il faut lutter pour améliorer la représentation. Je finirai juste alors par quelques chiffres, justement parce que la GLAAD, donc l'association américaine qui s'occupe à dénoncer les discriminations dans les médias envers les personnes LGBTQ, rend un rapport tous les ans Et justement, celui de 2019 est plutôt encourageant. On se souvient, par exemple, de l'année 2016 qui avait été terrible pour la représentation des femmes queer, parce que justement, il y avait eu beaucoup de mortes. Eh bien, en 2019, elle représente maintenant 53% des personnages réguliers et récurrents LGBTQ sur les networks classiques. Et ça fait plaisir d'entendre que les choses se sont améliorées à ce niveau-là. Et toujours pour l'année 2019, ça fait deux années d'affilée que le record de personnages LGBTQ à la télévision, dans les médias, a été battu. Et on a atteint environ 10% des personnages réguliers dans les séries. Notamment grâce à des séries donc, comme Pose, comme tu l'as dit, Pauline, mais aussi comme Euphoria ou Batwoman. Et ce qui est bien aussi, c'est que la représentation des personnages LGBTQ racisés n'est pas en reste, grâce toujours à Pose, évidemment elle revient souvent celle-là, mais aussi Brooklyn Nine-Nine ou Superstore, ce qui fait qu'elle représente 52% des personnages LGBTQ sur les networks. Ça va dans le bon sens. Forcément, qui dit plus de représentation dit qu'on aura la chance, je pense, d'avoir une représentation de meilleure qualité, en tout cas d'avoir plus de complexité, plus de choses. Ça serait une bonne chose. Après, il faut qu'il y ait les moyens derrière.
Ben merci beaucoup, c'était super. Moi, j'apprends tout le temps plein de trucs. En fait, on voulait finir sur une dernière partie sur la question des luttes ouvrières. Et pour dire la vérité, on a un peu galéré parce que même moi, j'ai dû faire des tweets en mode est-ce que vous auriez des références? Parce que c'est vrai que finalement, à ma connaissance, les luttes ouvrières sont peu représentées dans les séries télé ou si c'est représenté, c'est toujours en toile de fond et pas comme la conversation centrale. Mais Maxime et Monsieur B se sont un peu penchés sur la question et ont été regardés avec leurs lunettes ce qui s'y passait. Est-ce que tu veux commencer, si tu peux, Maxime? Je sais que tu as pas mal de choses à nous dire sur la représentation des luttes ouvrières dans les séries télé.
Si tout le monde entend, c'est top. Oui, en effet, j'ai galéré à trouver en fait des séries où les luttes ouvrières sont le sujet en lui-même de la série, c'est-à-dire que la trame globale se passe au sein des luttes ouvrières et on ne se retrouve pas avec juste une petite trame de fond sur un épisode ou deux, voire même les luttes ouvrières qui servent de background d'un personnage secondaire, comme c'est notamment le cas dans Peaky Blinders pour le personnage de Ava. Et j'ai vu une série il y a quelques temps qui, à mon grand regret, n'a pas été renouvelée passé la saison 1, donc je suis un peu en colère, qui s'appelle Damnation, qui est sur Netflix. C'est une série américaine créée par Troy Tost qui aborde la lutte sous un angle un peu original, qui est celui d'un homme, on comprend assez vite qu'il a un passé un peu trouble et violent, qui se fait passer pour un pasteur dans une petite ville des États-Unis, afin de mener la grève des travailleurs agricoles pour protester contre les prix fixés par les commerçants locaux, qui eux sont un peu arrosés par les banques, qui ont un intérêt financier derrière à maintenir des prix bas. Et du coup, la ville se retrouve... les agriculteurs se retrouvent à vendre leurs produits beaucoup moins chers que les villes environnantes. Et donc, du coup, on se retrouve avec cette lutte qui est menée pour obtenir des prix justes. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est une série américaine avec tout ce que les séries américaines un peu modernes présentent d'entertainment à l'américaine. Hein, c'est-à-dire que on va avoir de la grosse bagarre un peu scénarisée, ça va être il y aura les histoires d'amour annexes et tout, etc. Donc tout un peu les inconvénients de la série américaine classique, mais en même temps ça en fait un truc super frais et ça passe pas pour autant à côté des casseurs de grève, des grands financiers qui payent des mecs pour aller foutre des coups de pression aux propriétaires qui refusent de céder leurs terres. On a le même une chose qu'on a assez... Oui, j'ai oublié de préciser, ça se passe pendant la Grande Dépression aux États-Unis, donc dans les années 30. On a l'implication du Ku Klux Klan dans la politique locale qui va... où on voit comment en plus le capitalisme va s'associer au fascisme pour, dans un accord commun, essayer de combattre ce qui, eux, désignent dans la série comme les communistes. Et on est en pleine période anticommuniste aux États-Unis. Donc c'est ultra intéressant et vraiment à mon grand regret, ça n'a pas été renouvelé. Ça n'a pas été renouvelé parce que c'est une série qui parle d'un thème qui déjà est pas ultra vendeur de base, malheureusement, et qui en plus a un casting assez anonyme. On n'a pas de grand nom au casting, hein, on a que des. L'acteur principal est joué par Killian Scott, qui à ma connaissance n'a pas fait de grands rôles, que ce soit en série ou en film. D'après ce que je vois, non, c'est même sûr. Et du coup, on a que des gens qui ont eu des petits rôles, des rôles secondaires un peu partout. Mais c'est du coup ultra frais. Je vous engage à la voir. On est en période de confinement. On a plein de temps globalement pour mater plein de séries. Pour ceux qui ont le temps, ça dure une saison malheureusement. On reste un peu vraiment sur notre faim à la fin, mais ça vaut le coup d'être regardé à mon sens. Voilà.
Eh bien, c'est super. Et désolé pour la confusion de tout à l'heure. Comme on est des pirates, eh bien, on n'a pas de thunes. Et donc, moi, j'ai pas la fibre chez moi. Donc, d'ailleurs, si quelqu'un veut me payer la fibre, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Donc, désolé pour la confusion de tout à l'heure. Et je laisse la parole à Monsieur B, qui lui aussi a été chercher un grand renfort de recherche quasiment historique, une série télé à nous parler sur la question de la lutte des classes.
Oui, merci Pauline. Faudra aller chercher le butin pour payer la fibre. On va s'y mettre après.
Merci bien, merci bien.
Rendez l'argent.
Oui, mais on va aller voir Fillon, il doit en avoir un petit peu. Non, alors moi je voulais parler avant tout de la série Snowpiercer. Donc, alors Snowpiercer, pour ceux qui connaissent, c'est une adaptation de la BD Transpersonnage, une BD française, donc Cocorico, et qui est surtout une
Oh.
sorte. Ouais, pas une.
Désolé.
Non, y a pas de souci. Et qui est en fait pas une sorte, et qui est un reboot du film du même nom de notre ami Bong Joon-ho, notre camarade, j'ai envie de dire. Et en fait, donc ça, c'est une série post-apo qui se passe dans un futur où, cherchant à stopper le réchauffement climatique, l'humanité a gelé l'entièreté du globe. Ça nous ressemble. À mon avis, il faudra se méfier qu'on fasse pas ça à l'avenir. Mais en tout cas, en voulant tout régler d'un coup de baguette magique, ils ont tout fracassé. Et donc, résultat, on suit les derniers survivants à bord d'un train qui ne s'arrête jamais, qui fait entre guillemets, qui fait le tour du monde et qui est découpé en classes. Et justement, dans ce train, il y a ce qu'on appelle la classe le tail, donc qui est tout au bout. Et en fait, c'est des personnes qui sont montées entre guillemets sans autorisation dans le train. Donc c'est la classe la plus pauvre, qui est traitée comme des moins que rien et qui vit dans des conditions déplorables. Et c'est ça qui fait que bah il y a trois révolutions par an environ, parce qu'au bout d'un moment, les ressources réparties de façon inégale et ceux qui ont tout et d'autres qui ont rien, ça énerve les gens. C'est un peu logique. Et donc, résultat, c'est une série avec Jennifer Connelly, pour ceux qui la connaissent. Ça fait toujours plaisir de la
Bien
retrouver. Et
sûr.
aussi avec David Diggs, je ne veux pas écorcher son nom, j'essaye. Donc, ils jouent tous les deux les colides. Pour le coup, il y en a pas un qui est plus lead que l'autre. C'est chacun un truc. Bon. Pauline m'avait fait la remarque, elle n'a pas tout à fait tort, c'est pas extrêmement bien joué. C'est pas extrêmement bien joué, c'est pas Dear White People ou Vida par exemple. Mais moi ce que j'aime beaucoup, c'est le concept, en fait, une fois de plus, qui est le propre du post-apo, qui est de prendre une situation actuelle et de la grossir dans un futur délabré pour interpeller tout simplement le public, les gens qui regardent. Et là, pour le coup, on a tout, quoi, hein, le système de classe dans le train, avec les forces de l'ordre au service du pouvoir et de la bourgeoisie. Ça nous rappellera des souvenirs. Et donc, et surtout, en fait, le train qui est sous un régime autoritaire, avec la sacralisation d'un des spots éclairés. Donc c'est l'histoire. Et puis, il y a un petit twist qui est plutôt bienvenu. Enfin, il est bien foutu, mais un peu convenu, pour expliquer comment transformer ça d'un film d'1 h 40 environ à une série. Tout simplement, alors je le dis pas, et comme ça ne spoil pas, mais c'est pas trop mal foutu. Et donc après, on suit, on va dire, le quotidien du train entre conspiration, et révolution et pétage de tronche quand il faut. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc je la conseille. C'est un parallèle intéressant avec notre époque, et ça, moi en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. Et pour finir, parce que je vois l'heure est déjà bien avancée, je vais juste dire deux, trois mots sur la
Oui.
série Superstore, que certains connaissent peut-être, qui est une sitcom aux États-Unis, qui en fait représente les blue collar, ah non, color, c'est pas le dire, j'ai mon accent est nul. Et donc en gros, qui est là, on va dire la classe ouvrière aux États-Unis, ceux qui font des travaux physiques, et c'est en fait sur le quotidien de personnes qui travaillent dans une espèce de méga grosses enseignes aux États-Unis et qui abordent toutes les inégalités qu'il y a pour cette classe. Donc, les inégalités, le manque il n'y a pas d'assurance santé, pas de congé mat, le syndicalisme, mais n'en parlons même pas, c'est un gros mot chez eux, le droit de grève, c'est super compliqué, la précarité, le droit des migrants. Enfin, voilà, l'handicap au travail, avec le personnage du Gareth, donc, qui est en fauteuil roulant. Et c'est une série très drôle, vraiment pertinente, vraiment très pertinente même par moment, qui en plus réchauffe le cœur. C'est pas, voilà, oui, ça aborde des sujets graves, c'est clairement pas la joie, souvent pas la joie, mais c'est toujours c'est une sitcom, donc c'est toujours abordé avec un angle qui fait que ça fait quand même pas mal rire, sans jamais remettre en cause le sérieux des choses qui sont dépeintes. Il y a une anecdote qui est marrante, en fait, c'est que justement, ils sont censés représenter les blue collars et il se trouve, en fait, qu'ils sont tous en bleu, justement. Alors, c'est les couleurs de la grande enseigne, mais ce qui est un moment marrant, c'est qu'il y a un de ceux qui travaille, donc, on va dire, au plus bas de l'entreprise, qui finit par être promu manager. Et contrairement à notre manager, garde une veste bleue. Comme pour signifier que c'est, il y a un upgrade, mais la personne n'oublie pas d'où elle vient à l'origine. Je trouvais que c'était une symbolique assez forte. Bref, c'est vraiment une super série et elle est vraiment très, très, très drôle. Donc, pour le coup, les sitcoms qui sont à la fois très drôles et très pertinentes, moi, j'en veux tous les jours. Je ne sais pas pour vous.
Eh bien, merci beaucoup. On s'était donné une dernière question à se poser pour la fin. Déjà, on voulait remercier toutes les personnes qui sont restées. On est encore à 100 100 personnes qui sont toujours en train de nous écouter alors qu'il est encore 22h. Agathe, si tu avais une série à recommander, ça serait quoi en une seconde?
Trailer Park Boys.
Et ça alors, parle de quoi?
On suit les aventures de trois copains qui vivent dans un camping pour mobilhome et qui vivent de système D et de camaraderie. C'est pas trop dans le thème du soir. Alors c'est pas, je vais pas faire mon intello en mode genre les luttes, etc. J'ai aucun argument à vous avancer, juste regardez Trailer Park Boys.
C'est ultra perché.
Ok. Mr. B.
Alors moi pour le coup j'ai choisi une série justement pour rester dans le thème vu que j'en avais une, donc j'ai choisi de vous conseiller Black Sails parce qu'au bout d'un moment on s'appelle Radio Pirate, bon, faut bien au moins parler d'une série sur les pirates. Et surtout, je vous la conseille parce que c'est une fantastique série de Stars. Alors attention, c'est une série pour adultes, hein, parce que c'est une série de Stars, donc il y a le cahier des charges de Stars, violence, sang, nudité, enfin c'est voilà. Mais par contre, c'est vraiment une super série où il faut quand même passer au-dessus de la saison 1 qui est pas top top. Ça blablate beaucoup trop et il se passe pas grand-chose, mais par contre, je vous garantis que ça vaut le coup de s'accrocher les 8 premiers épisodes parce qu'après ça devient fantastique. Et justement, lors de la saison 3, on a un très très bel exemple de convergence des luttes qui est super bien foutu. Enfin, c'est une série fantastique. Et si vous aimez un petit peu les pirates, si vous êtes adhéré un peu aussi à cette figure, bon, certes un peu romantique, mais la figure contestataire du pirate, justement, qui lutte un peu contre l'impérialisme, le colonialisme. Enfin, bon, bref. C'est... Et puis, cerise sur le gâteau. Bon, je force, mais jusqu'au bout, je fais.
C'est ouf, même.
Il y a une représentation LGBTQ dans la série qui est super géniale. Elle est vraiment trop cool.
Ah, c'est pas du forçage.
Elle est vraiment trop cool et c'est une grande force de la série. Donc voilà, je la conseille.
Merci. Maxime, c'est à toi.
Oui, alors moi en plus c'est l'occasion du coup d'avouer ma passion non dissimulée pour les épisodes de séries, des épisodes de comédie musicale, qui font en général débat. Et en fait, il y a une série récemment qui s'est dit que plutôt que de faire un épisode de comédie musicale par série, ils allaient faire un épisode de comédie musicale par épisode, qui est Crazy Ex-Girlfriend, qui est diffusée sur Netflix également, et qui raconte du coup les aventures d'une juive américaine qui est avocate et qui pète un câble et décide de partir dans une petite ville de Californie en quête de reconquête de son petit ami de vacances de ses 18 ans. Et en fait, c'est une série ultra, déjà, qui met d'ultra bonne humeur parce que si on aime les comédies musicales, en général, c'est l'avantage. Et qui a l'avantage, en plus, d'aborder plein de thèmes, notamment le thème de la santé mentale, qui va beaucoup parler de dépression, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de thèmes qui sont abordés. Ça va parler d'homoparentalité, de dépression. Il y aura enfin, plein de choses. Il y a, ça aborde le suicide, ça aborde tous les trucs un peu sociaux, en fait, mais d'un point de vue un peu léger parfois, un peu lourd parfois, mais un peu distant aussi. Bon, c'est parfois un peu maladroit à mon sens. Des fois, ça m'a fait un peu grincer les dents, mais globalement, c'est une très bonne série. Je vous la recommande.
Super. Bah moi, la
Yes.
dernière, en fait, Agathe, on a parlé, c'est Grey's Army. Je dois dire, et je vais juste dire que ça a été pour moi une série que j'ai commencé avec un regard très distant. Et ça a
Pareil.
été une claque incroyable, et notamment sur la représentation des violences faites aux femmes. Et
Ouais.
ça m'a totalement bouleversée. Parce que, en fait, j'ai cru que j'étais très, très ouverte d'esprit et très, comment dire, informée. Et avec un regard aigu sur la question, et je me suis rendu compte que j'étais vraiment la dernière des personnes parce que je me laisse aller au regard du slut-shaming, du patriarcat, etc. Et qu'en fait, c'est un regard qu'on doit aiguiser en permanence. Et cette série m'a fait ré réaliser ça, et rien que pour ça, il faut la regarder. On vous remercie vraiment beaucoup. On a dépassé d'un quart d'heure, ce qui n'est pas cool parce qu'on paye en fait le temps du podcast. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était une super soirée. Merci les copains d'avoir fait ce plateau avec moi.
Merci.
C'est vraiment super.
Merci.
Et merci
Donc,
à la technique.
merci à la
oui.
technique. Et petit message de fin personnel, parce que ça fait. Moi, j'ai eu le droit de faire juste l'introduction. Et là, c'est ma première vraie émission. Encore merci à tous les pirates et toute la piraterie en fait de ce superbe projet avec nous. On est extrêmement fiers en fait de vous. De la fin tous les soirs à 21h, c'est pas un jeu pour nous, c'est vraiment un acte militant et d'engagement, et on voulait vraiment vous remercier fortement pour votre suivi, votre amour pour vos musiques gratuites, etc., etc. Et en parlant de musique, encore merci aux musiciens et musiciennes pirates de nous avoir donné plein de références. On finit cette soirée plein d'amour avec Revolution Sound de Poutou Aillé. À demain soir 21h, piratez la radio. À demain.
À
Merci à
demain.
toutes et tous. Salut.
Pour tout allié, pour tout un qui café travail là sans plier. Malgré certains mondes qui gagent jalousés, nous déterminés pour ne pas marcher en mauvais côté. Mais nous empêcher ça nous fait pour nous stopper. On est là, nous fait passer ces musiques lâches là pour nous chasser. Stop, ils gagnent trop mauvais paroles. Heureusement y'a les potes pour nous pas arrêter, je nous console. Objectif, c'est percer dans la musique. Plein d'idées inventives, nous t'avancer malgré critique. Tous les jours nos cabos sont nous tchou. Yo, Revolution sont visé la ligne. Pas qu'à faire partie du même lot. Côté mon grandi, ça fait y pas tes gains bras pour poter nous l'homme. En l'eau pour si voilà qu'à jouer rôle. Depuis tout petit, nous démenons pour certains papiers du contrôle. Qui monte poté, ça qui dispose, qui j'ai endossé tout au peine que ton l'ombre sans changer. Persistance côté ou paix pour l'esprit apaisé. Pour conscience à ou celle qui met ou pas ou piégé. Big respect, man, pour tout allié. Pour tout soldat qui a fait travail là sans plier. Malgré certains mots qui cachent jalousé. Déterminé pour pas marcher en mauvais côté. Respect man pour tout allié. Pour tout soldat qui a fait travail là sans plier. Malgré cet amour qui cache jalousé. Nous déterminé pour pas marcher en mauvais côté. Yes, I want you for my sister. Mon blada, mon soldat. Pour ces mounes qui toujours là l'autre bisoyé. Tu savais tout fait compter. Enlayé toujours au payé. Pas qu'à jamais laisser tout tomber. Vos amis, à point nous reconnaître. Faut tout prendre à tout y que planter. A toi même qu'à jalousé. L'homme qui a trahi dans sa bien disposée. Big respect man pour tout camarade. Boy nous tout j'apparaît pour sa big gobelé pagna. Yeah. Bon ta maman ça qui parla. M'en détaille à tiye kachek tous les trucs en dollar. Hypocrite, m'en pas kachek yo. C'est mon qui trop pile, y'a carré pour sa gâte, en fait ça l'aide en fait. Y'a pas qu'à venir en face qui mal dit sa molasse. Gare au coup de classe, gare à veiller ton fesse. Big respect man pour tout
tout allié, pour tout soldat qui a fait travail là, sans plier. Malgré sa thème qui a jalousé, nous déterminer pour ne pas marcher en mauvais côté.
Big respect même pour tout allié,
pour tout soldat qui a fait travail là, sans plier. Malgré certains mots qui cachent jalousés, nous déterminés pour ne pas marcher un mauvais côté.
Big respect man pour tout allié,
pour tout soldat qui a fait travail là sans plier.
Malgré certains mots qui cachent jalousés,
nous déterminés pour ne pas marcher un mauvais côté.
Big respect man pour tout allié,
pour tout soldat qui a fait travail là sans plier.
Malgré certains mots qui cachent jalousés,
nous déterminés pour ne pas marcher un mauvais côté.